Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakiza à la présentation de cette édition du mardi 13 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. En Afrique du Sud, plus de 45 morts dans des violences et des pillages dans plusieurs villes. Au Nigeria, un émir kidnappé dimanche a été relâché, mais 13 de ses proches sont toujours gardés en otage. Montée de cas de Covid-19 au Sénégal, les mesures de prévention ne sont pas suivies.
Il y a eu des moments où il y a eu vraiment des mesures que tout le monde respectait et au fur et à mesure de l'évolution, tout à la fin de cette deuxième vague, on a senti qu'il y a un relâchement.
Colère et désespoir en Irak après un incendie dans un hôpital qui a fait plus de 60 morts. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, les violences ont fait déjà plus de 45 morts dans des bousculades pendant les pillages. De nouveaux pillages ont eu lieu malgré l'appel au calme du président Cyril Ramaphosa et le déploiement des militaires. Le point avec Claire Morégibourg.
26 morts dans la province du KwaZulu-Natal où les premiers incidents ont éclaté vendredi. Au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. À Johannesburg, 19 personnes sont mortes dans les violences. Une bonne partie de ces victimes ont été piégées dans des bousculades qui ont eu lieu lors de pillages dans plusieurs centres commerciaux du pays. Au township de Soweto, les corps de 10 personnes ont été retrouvés hier soir. Quelques heures auparavant, une foule avait dévalisé le centre commercial d'Ofaya. Les émeutiers ont mis à sac supermarchés et petits commerces, emportant tout ce qu'ils pouvaient. Nourriture, matériel, équipement. Les forces de l'ordre, débordées, ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser les foules de pillards, suscitant la panique sur les parkings de centres commerciaux ou de hangars. 757 personnes ont été arrêtées, la majorité à Johannesburg, a précisé le ministre de la police, Bheki Cele. Le président Cyril Ramaphosa a indiqué hier soir que si les frustrations et la colère exprimées avaient des racines politiques, aucune cause ne peut justifier ces violences.
L'opération anti-djihadiste française Barkhane au Sahel, qui mobilise aujourd'hui plus de 5000 militaires, s'achèvera au premier trimestre 2022, a précisé mardi le président français Emmanuel Macron, après en avoir récemment annoncé la fin prochaine. Il a d'ores et déjà annoncé une réduction progressive des effectifs militaires français au Sahel après 8 ans de présence ininterrompue au profit d'un dispositif allégé de 2500 à 3000 hommes à terme. Paris va continuer à agir dans la région car nous ne nous désengageons pas, a-t-il déclaré lors de sa traditionnelle allocution aux armées à la veille du défilé du 14 juillet. L'opposition au Tchad a décidé de reporter la mobilisation en raison de désaccords sur l'itinéraire. La manifestation avait été autorisée sur un parcours de 3 km dans le centre-ville d'N'Djamena. Cet itinéraire ne permettrait pas de mobiliser beaucoup de monde dans les rues parce que la plupart de militants se trouvent loin de cet endroit, a assuré à l'AFP Ralid Daoud, membre de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme. Des associations de la société civile et le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Mastra avaient appelé à manifester vendredi à N'Djamena contre les violations systématiques des droits de l'homme et l'accaparement du pouvoir par le Conseil militaire de transition. Au Nigeria, l'émir enlevé dimanche dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, a été relâché par ses ravisseurs qui détiennent toujours en otage 13 membres de sa famille, selon son fils aîné. Les précisions de John Lyndon.
Les assaillants, connus localement sous le nom de bandits, ont attaqué la résidence d'Alassane Adamou, l'émir de Kaduro, âgé de 83 ans, situé à la périphérie de Kaduna, capitale de l'état du même nom. Ils ont enlevé l'émir et ses proches, dont des femmes et des enfants. Il a été relâché hier et il est désormais dans son palais, a déclaré Moussa Alassane Adamou, son fils aîné. Selon lui, le monarque a été amené à l'hôpital pour un examen médical Sahel, où il a été déclaré en bonne santé. Les bandits retiennent toujours en otage 13 membres de la famille, a-t-il ajouté. Une source proche du palais affirme que les ravisseurs ont réclamé le paiement d'une rançon pour la libération des proches de l'émir. Depuis l'année dernière, l'État de Kaduna est le théâtre de nombreux enlèvements contre rançon visant les élèves, les étudiants et les voyageurs. Mais kidnapper un émir y est vraiment une première.
Dans la région éthiopienne du Tigré, les forces rebelles mènent une nouvelle offensive. Nous sommes parvenus à sécuriser la majorité du sud du Tigré, a affirmé Getachew Reda, un porte-parole des rebelles, précisant et contrôlant notamment la ville d'Alamata. Il a également affirmé que des combats se déroulaient à l'ouest. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a appelé mardi les troupes érythréennes à se retirer rapidement et de manière vérifiable de la région du Tigré et à la fin immédiate de toutes les exactions. L'Éthiopie a jugé mardi inutile l'intervention des Nations Unies, estimant qu'un accord sur son barrage controversé GERD sur le Nil était possible avec l'Égypte et le Soudan. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, avait déclaré la semaine dernière au Conseil de sécurité que la gestion de la crise par l'Union africaine était dans l'impasse. Ce conflit dure depuis près de 10 ans entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Environ 250 Algériens vivant clandestinement en France qui souhaitent rentrer dans leur pays par une procédure de retour volontaire sont empêchés de rentrer chez eux par l'Algérie, invoquant des motifs sanitaires, ont indiqué les autorités françaises de l'immigration.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden monte au front mardi à propos de l'accès des minorités au vote. C'est un sujet qui divise les démocrates et les républicains, par exemple au Texas, en proie à une crise parlementaire. C'est à Philadelphie, ville hautement symbolique, où ont vu le jour la déclaration d'indépendance et la constitution américaine, que le président a prévu un discours très attendu par les militants des droits civiques. Joe Biden va expliquer pourquoi, sur le plan moral, retirer le droit de vote est une forme de répression, a dit lundi la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. En Afghanistan, les talibans ont appelé mardi les citadins à se rendre pour éviter les combats dans les villes et mise en garde Ankara contre le maintien de troupes turques après le départ des forces étrangères. 4 civils ont été tués et 11 blessés mardi par l'explosion d'une mine dans le centre de Kaboul. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. En Irak, c'est la colère et l'effroi au lendemain du terrible incendie dans un hôpital de Nasiriya, dans le sud du pays. Le dernier bilan fait état d'au moins 64 morts et une centaine de blessés. Le point avec Abdulrahman Dia.
La majorité des victimes ne sont toujours pas identifiées. L'unité COVID, un préfabriqué installé il y a quelques mois et jouxtant l'hôpital, a été entièrement ravagée par les flammes. Les pompiers ont mis plusieurs heures à maîtriser l'incendie. Des scènes de chaos se sont déroulées jusque tard dans la nuit. Les habitants accourus sur les lieux tentant de secourir les patients de l'unité et les évacuer au milieu des flammes. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un policier en sanglots effondré après avoir appris la mort de 2 de ses proches. L'incendie a été provoqué par l'explosion de bouteilles d'oxygène selon une source sanitaire. Le désastre a entraîné des réactions de colère immédiates. Des centaines de personnes ont manifesté la nuit dernière devant l'hôpital de Nasiriya, pointant du doigt les politiciens et la corruption, les négligences et les manquements à la sécurité. En avril dernier, un incendie similaire dans un hôpital de Bagdad avait fait plus de 80 morts.
La pandémie du coronavirus a fait plus de 4 millions de morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Le point avec Rosine Mounedzer.
Plus de 187 millions d'infections ont été recensées depuis le début de l'épidémie dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont l'Inde avec plus de 2000 nouveaux morts, puis l'Indonésie et la Russie. Les États-Unis sont le pays le plus touché en nombre de morts et de cas. L'Afrique a déjà enregistré plus de 150 000 décès avec plus de 5 millions de cas. La Tunisie a le taux de mortalité le plus élevé du continent. La France va fournir dans les semaines à venir plus d'un million de doses de vaccins à la Tunisie. Parallèlement, Paris a décidé de placer le pays sur sa liste rouge, ce qui signifie que les non-vaccinés ne pourront s'y rendre ou en revenir sans motif impérieux, a annoncé le porte-parole du gouvernement français. Enfin, le Bangladesh va lever son confinement national face au COVID-19 pour l'Aïd al-Adha, l'une des deux fêtes les plus importantes du calendrier musulman.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique, nous retrouvons ce soir John Lindon pour la Minute Éco.
1075 milliards de francs CFA, c'est le volume global prévisionnel des titres publics projeté d'émettre par adjudication les pays membres de l'UEMOA au troisième trimestre 2021. L'annonce adressée aux investisseurs opérant sur le marché de l'UEMOA a été faite par les dirigeants de l'agence UEMOA Titres, une institution basée à Dakar au Sénégal. La BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, dont le siège est à Yaoundé au Cameroun, vient de réactiver son comité régional de normalisation financière. Cet organe était en hibernation depuis 10 ans. D'après le site CameroonInfo.net, il s'agit d'assurer un meilleur contrôle et un suivi des établissements d'épargne et de crédit en activité dans les 6 pays de la CEMAC. Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi avoir réduit la cadence de production de ses longs courriers 787 Dreamliner après l'apparition de nouveaux problèmes s'ajoutant à des précédents ennuis qui avaient perturbé les livraisons. Boeing a déjà révélé en septembre avoir découvert plusieurs défauts de fabrication sur le raccord d'une portion du fuselage du 787, puis le stabilisateur horizontal. La sécurité des appareils de Boeing est surveillée de près depuis les 2 crashs du 737 MAX, son avion vedette.
On enchaîne directement avec les sports de Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Défait samedi par le Nigeria, les États-Unis s'inclinent à nouveau face à l'Australie 91-83. Un match de préparation pour les JO de Tokyo. C'est le 4e revers en 5 matchs de la Team USA depuis la Coupe du Monde 2019 où elle a terminé à une embarrassante 7e place. Si cette sélection américaine n'est pas la meilleure possible, LeBron James, Stephen Curry et Kawhi Leonard n'en faisant pas partie, elle compte toutefois plusieurs stars comme Damien Lillard, Jason Tatum ou Kevin Durant, meilleur scoreur lundi avec 17 petits points. L'Australie, candidate au podium au Japon, n'a jamais battu les États-Unis dans le tournoi olympique de basketball masculin en 8 tentatives depuis 1964. Les États-Unis, qui restent sur 3 titres olympiques, cherchent à retrouver leur domination mondiale. Samedi, le Nigeria, qu'ils avaient atomisé de 83 points lors des JO de Londres en 2012, leur a infligé la première défaite de leur histoire face à un pays africain, 90-87. Toujours ici, aux États-Unis, la sprinteuse américaine Sha'Carri Richardson fera son retour à la compétition en août lors du meeting de Guénie. Annonce les organisateurs, la native de Dallas participera aux 100 mètres et 200 mètres les 20 et 21 août. L'épreuve de l'Oregon fait partie de la Ligue de Diamants après un début de saison canon qui a fait d'elle la 6e femme la plus rapide du monde avec 10,72 secondes en avril et une victoire aux 100 mètres des sélections américaines. Richardson était considérée comme l'une des favorites sur cette distance aux Jeux olympiques, mais elle a été privée des JO de Tokyo après avoir été contrôlée positive à la marijuana lors des sélections et suspendue pour 1 mois à partir du 28 juin par l'agence américaine anti-dopage. Football, le patron du Real Madrid, Florentino Pérez, dénonce l'exhumation par le journal en ligne El Confidencial de vieux enregistrements et les critiques de légendes du club, Raúl et Iker Casillas, jugeant cette diffusion liée à son soutien au projet mort-né de Super League. Dans l'un des enregistrements datant de 2006, peu après la fin de son premier mandat à la tête du Real, Pérez déclare à propos de l'ancien gardien Casillas qui a porté les couleurs du club de 99 à 2015, je cite, « C'est l'une des grandes arnaques et la seconde, c'est Raúl, attaquant vedette du géant madrilène de 94 à 2010. Le Real fait partie avec le FC Barcelone et la Juventus au Turin, des trois clubs qui continuent à défendre la Super League sur les 12 promoteurs initiaux de ce projet de création d'une ligue quasi fermée, abandonnée 48 heures seulement après son lancement en avril dernier. »
Merci à Yacouba pour les sports. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Afrique du Sud, les violences déclenchées par l'emprisonnement de l'ancien président Jacob Zuma ont déjà fait plus de 45 morts. En dépit des premiers déploiements de soldats, les pillages continuent et les émeutiers ne semblent pas vouloir arrêter. Le point de la situation avec Valérie Hirsch, notre correspondante à Johannesburg.
C'est une scène de chaos et de clameurs mardi matin devant le centre commercial de Protea Glen, au cœur de Soweto. Des centaines de gens sont en train de voler tout ce qu'ils peuvent, comme l'explique cette jeune fille.
Ils prennent tout, littéralement tout, là-bas. Il y a des morts, 8 corps, où ils ont volé de la nourriture et de l'alcool. Les choses ont dû tomber et ils ont été écrasés.
Trop dangereux d'aller vérifier. Des hommes en train de dévaliser un distributeur de billets se font menaçants. Ils volent notre appareil photo. Il faut s'enfuir au plus vite. Dans un autre quartier de Soweto, quelques soldats montent la garde devant le centre commercial de Deep Clove, totalement dévasté.
Dehors, il y a une foule qui acclame une des personnes qui a été arrêtée, vient de s'enfuir et elle a été acclamée par la foule, l'armée sur place. Ils ont arrêté une quinzaine de personnes.
Makladi Machlasé, là, est un jeune informaticien. Il habite à côté du centre commercial.
L'armée est ici, mais je ne pense pas que cela suffit parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui essayent de voler ce qu'ils peuvent. Il y a beaucoup de tirs de la police depuis 4 heures du matin. C'est vraiment l'anarchie, le chaos. La police et l'armée sont arrivés vers 23 heures. Ils vont et ils viennent, et quand ils partent, les gens reviennent pillés. C'est surtout les jeunes. Certains ont été payés pour détruire tout. Cela a commencé comme un mouvement de protestation pour Zuma et puis oui, cela a dégénéré.
Les émeutes ont commencé à Soweto dans un centre commercial proche d'un dortoir de travailleurs migrants zoulous, l'ethnie de l'ancien président Jacob Zuma, emprisonné depuis 6 jours. C'est aussi le cas dans les autres townships de Johannesburg. Beaucoup de gens pauvres ont ensuite profité des troubles pour se livrer à des pillages. Sipo est lui-même un zoulou, mais il ne se sent pas concerné par le sort de Zuma, comme la plupart des habitants de Soweto.
Je m'en fiche de Zuma. Ce qui se passe, c'est à cause de la pauvreté et du chômage. Et à cause des pillages, notre situation va encore empirer dans un futur proche.
Les gens de Soweto et d'ailleurs craignent maintenant des pénuries alimentaires et d'essence. Le pays traverse une phase de chaos sans précédent et les forces de l'ordre ont bien du mal à reprendre le contrôle de la situation. Valérie Hirsch à Johannesburg pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Une troisième vague de COVID-19 est annoncée sur le continent africain. Au Sénégal, si plusieurs variants ont été détectés, les mesures préventives sont plus que jamais négligées. Les manifestations publiques avec beaucoup de monde ont repris de plus belle. Les artistes et autres remontent sur les podiums et les salles pour les soirées dansantes sont pleines à craquer. En moins de 10 jours, le nombre de cas positifs au COVID-19 est passé du simple au triple. Les Sénégalais sont-ils réellement conscients de la troisième vague et ses conséquences désastreuses? Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'Organisation mondiale de la santé alerte depuis des semaines sur l'arrivée d'une troisième vague de COVID-19 en Afrique. Au Sénégal, l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation a confirmé la présence de variants préoccupants dont le très redouté Delta. Le directeur de l'ISREF, le professeur Souleymane Boub, conforte l'OMS et sollicite plus de vigilance.
Cette épidémie, partout, on a vraiment senti une fatigue, ce qui est tout à fait normal. Il y a eu des moments où il y a eu vraiment des mesures que tout le monde personnes respectées et au fur et à mesure de l'évolution, surtout à la fin de cette deuxième vague, on a senti qu'il y a un relâchement. Mais le message, c'est qu'il faut se dire qu'il faut se préparer à une éventuelle troisième vague. Comme on le voit dans beaucoup de pays déjà, dans quelques pays en Afrique, mais on voit surtout ces variants-là maintenant préoccupants, avec surtout en majorité pour le moment le variant britannique et surtout encore du variant indien.
Paradoxalement, face à cette situation alarmante décrite par les autorités sanitaires, on constate un relâchement de la part des populations. Ce jeune homme qui a requis l'anonymat semble minimiser l'arrivée d'une troisième vague. Nous l'avons rencontré dans la rue, sans masque.
Ah waouh, troisième vague, mon.
Sincèrement, je ne crois pas à l'arrivée de la troisième vague de coronavirus. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà annoncé la deuxième vague avec des conséquences désastreuses. Pourtant, rien de tout cela ne s'est produit. De plus, le président avait dit d'apprendre à vivre avec le virus. C'est ce que nous faisons. Donc, avec ou sans troisième vague, la vie continue et nous allons vivre.
On vit.
Trouvé à un arrêt-bus, Ousmane Samba pense que les Sénégalais ne sont pas conscients des dangers que pose le virus.
Nous négligeons les effets néfastes du virus. Nous attendons tous la hausse des cas, mais on s'obstine à vouloir dire qu'il n'y aura pas de troisième vague. De plus, arrêtons d'accuser l'État de tous les maux. Nous n'avons qu'à porter les masques, respecter les gestes barrières et utiliser du gel hydroalcoolique.
Salif Diop est en phase avec Ousmane Samba. Pour lui, l'arrivée de la troisième vague est due au relâchement.
Si la presse en parle, qu'il y a d'autres variants. Donc, j'ai peur, bien sûr. Ça m'inquiète.
Malgré le relâchement constaté, certains continuent à suivre les mesures barrières. Porter son masque, se laver les mains régulièrement. Le vieux Ali, un sexagénaire, dit prendre toutes ses précautions pour éviter de contracter le virus.
On nous dit qu'il y a toujours des cas. Donc moi, de mon côté, tant qu'il y aura toujours des cas, moi, je vais porter mon masque. Et arrivé à la maison, chez moi, je me lave les mains. Je prends toutes les précautions possibles.
Malgré la découverte de vaccins, au Sénégal, les cas augmentent. Si d'aucuns pensent qu'il faut vivre avec le virus, d'autres continuent à respecter les gestes barrières et les règles d'hygiène. La seule constante est que nous assistons à une augmentation assez rapide des cas communautaires. Seydina Bagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
En 2020, entre 720 et 811 millions de personnes dans le monde ont été confrontées à la faim, soit environ 118 millions de personnes de plus qu'en 2019, rapporte la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. D'après cette agence onusienne, la pandémie de COVID-19 aura des effets à long terme sur la sécurité alimentaire mondiale. Cette aggravation de la faim dans le monde, plus de 18% sur un an, compromet l'objectif fixé par l'ONU d'éradiquer la faim d'ici 2030. Yacouba Ouedraogo, adjoint à Genève, Dominique Burgeon, directeur du bureau de liaison de la FAO avec les Nations Unies.
En fait, on voit que 10% de la population mondiale fait face à la faim, fait face à la sous-alimentation chronique. Ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que c'est depuis 2014 qu'on voit une inversion de la tendance, c'est-à-dire que jusque 2014, la sous-alimentation dans le monde régressait. Depuis 2015, on voit qu'elle augmente à nouveau. Et elle augmente liée à toute une série de paramètres, dont notamment l'augmentation de l'intensité et du nombre de conflits, et de la fréquence des événements climatiques extrêmes, l'augmentation des crises économiques et des récessions, tout ça sur un terreau de pauvreté et d'inégalité. Ce sur quoi, en 2020, évidemment, est venue se greffer la problématique liée à la crise de la COVID-19 qui a exacerbé les vulnérabilités existantes, donc le nombre de personnes sous-alimentées, puisqu'entre 2019 et 2020, on est passé de 650 millions de personnes, 8,4% de la population mondiale, à 768 millions, soit 9,9% de la population mondiale.
Dans votre rapport, vous ne parlez pas de personnes atteintes de famine, mais plutôt de personnes touchées par la faim. Quelle nuance vous faites ?
La famine, c'est une situation extrême où il y a des mortalités importantes. Ici, nous ne parlons pas de famine, mais nous parlons de faim chronique, donc d'incapacité des gens à avoir un apport énergétique suffisant leur permettant de vivre une vie saine et productive.
Quelles sont les parties du monde qui sont le plus touchées ?
L'Afrique est malheureusement disproportionnément affectée, puisqu'on a 282 millions de personnes, soit 21% de la population, qui est en situation de sous-alimentation. Et ce qui est très préoccupant, c'est que l'Afrique est malheureusement la seule région où, dans certains pays, nous voyons les trois facteurs de conflits extrêmes climatiques et chocs économiques qui sont associés. Nous voyons ainsi que, par exemple, dans des pays comme la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Nigeria, ce sont des contextes où l'augmentation de la prévalence de la sous-alimentation a augmenté de façon, je dirais, la plus spectaculaire, avec des augmentations de l'ordre de 15%.
Vous dites dans votre rapport que près de 660 millions de personnes environ pourraient connaître la faim en 2030. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que cela arrive?
On identifie essentiellement 6 pistes d'intervention qui ont trait à la résilience par rapport justement au conflit, en travaillant sur le nexus humanitaire paix-développement, en travaillant à la résilience face au changement climatique, face au choc économique, à rendre les régimes alimentaires sains plus accessibles, puisqu'en fait, on voit que 3 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à une alimentation saine, mais aussi travailler sur l'inclusivité, c'est-à-dire travailler justement sur les disparités hommes-femmes, et enfin travailler sur des changements comportementaux des consommateurs.
Dominique Burgeon, directeur du bureau de liaison de la FAO avec les Nations Unies, joint à Genève. Le commandant de l'armée américaine en Afghanistan a quitté son poste hier lundi. Les talibans, pour leur part, gagnent du terrain. Le président Joe Biden promet un retrait total des troupes américaines d'ici la fin août. Carla Babb, la correspondante de la VOA au Pentagone, fait le point. Le récit signé Marius Murunga.
La date officielle pour la fin du retrait des troupes américaines d'Afghanistan est fixée au 31 août. Une petite cérémonie militaire a lieu à Kaboul après 20 ans de guerre. Le général Frank McKenzie du centre de commandement américain.
But it's not the end of the story.
Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est plutôt la fin d'un chapitre. D'autres chapitres suivront et le récit va continuer.
Le retrait est achevé à plus de 90%. La plupart des Américains et le matériel sont déjà partis. Le général Austin Scott Miller, ancien commandant des forces américaines en Afghanistan, quitte son poste avec cette cérémonie qui marque la fin de son commandement.
Alors que je quitte l'Afghanistan, je pense qu'il est très approprié de se souvenir du sacrifice. Les pays qui ont servi ici, beaucoup ont perdu des militaires et des civils. Nos partenaires afghans ont perdu des militaires et des civils. Maintenant, notre travail consiste à ne pas les oublier.
Le Pentagone, sans donner plus de détails, prévoit une autre cérémonie pour honorer les quelques 800 000 soldats américains qui ont servi en Afghanistan. Les soldats américains sont entrés en Afghanistan en 2001 pour défaire les bases d'Al-Qaïda où s'entraînaient des terroristes qui ont lancé les attentats du 11 septembre qui avaient fait plus de 3 000 morts aux États-Unis. Le président Joe Biden a justifié ce retrait la semaine dernière.
We did not go to Afghanistan to nation build.
Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation. C'est le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays.
Les talibans ont été renversés pour avoir hébergé les leaders d'Al-Qaïda, dont Oussama Ben Laden. 20 ans après, ils ont accéléré les attaques contre les forces afghanes depuis le début du retrait des troupes américaines. Ils ont presque triplé le nombre de districts qu'ils contrôlent depuis le 1er mai, selon le Long War Journal de la Fondation pour la Défense des Démocrates. Le général Scott Miller.
What I tell the Taliban is they're responsible too.
Ce que je dis aux talibans, c'est qu'ils sont aussi responsables. La violence qui se déroule est contraire à la volonté du peuple afghan et elle doit cesser.
Après le 31 août, le Pentagone va continuer de soutenir financièrement les forces afghanes avec un soutien aérien depuis l'extérieur du pays. L'attaché de presse du Pentagone, John Kirby.
Nous allons leur donner 37 hélicoptères Black Hawk. C'est plus qu'ils en ont actuellement, doublant ainsi leur capacité d'attaque. Nous leur achetons 3 autres avions d'attaque Super Tucano, des avions d'attaque à voilure fixe.
Le porte-parole du Pentagone et d'autres se disent inquiets des avancées militaires des talibans.
Nous sommes certainement préoccupés par la possibilité que les progrès sociaux, économiques et politiques réalisés en Afghanistan au cours des 20 dernières années puissent être compromis ou mis en péril.
Cependant, il est beaucoup moins certain que les forces afghanes, plus nombreuses et dotées d'équipements plus sophistiqués, pourront contenir la marée des talibans.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Plus d'informations 24 heures sur 24. Restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.